Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison du Grand Moudre, du lundi au vendredi de 18h à 19h. Ce soir, faut-il dépolitiser la fiscalité ? Qui osera cette fois-ci promettre le grand soir fiscal en cas de victoire à la prochaine présidentielle ? L'idée d'une refonte complète et radicale de la fiscalité a été si souvent évoquée sans être mise en œuvre qu'il faudra être sacrément convaincant pour persuader les électeurs que, oui, cette fois, ce sera la bonne. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais déjà la campagne bruisse de promesses fiscales, moins ambitieuses sans doute, mais symboliquement, donc politiquement, plus porteuses. À droite, la quasi-totalité des candidats à la primaire promet de supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Du côté de la majorité, c'est l'impôt sur le revenu qui est visé. Nous l'avons fait baisser, dit le Premier ministre, nous allons continuer. Et puisque l'impôt est l'arme suprême du politique, ce qui lui reste de pouvoir quand il ne lui reste plus rien, on peut s'attendre à de nombreuses autres propositions dans les prochaines semaines. La fiscalité de l'épargne, l'imposition des sociétés font d'ailleurs déjà l'objet de promesses de réforme, sans que l'on voit très bien quelle pourrait être la cohérence d'ensemble. Alors n'est-il pas temps justement de repenser de manière globale et peut-être non partisane la place de l'impôt dans notre société, d'imaginer un impôt véritablement universel et donc accepté par tous ? Et pour y arriver, faut-il dépolitiser la fiscalité ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, deux invités. Robin Rivaton, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, membre du conseil scientifique de la Fondapol. Vous avez publié à ce titre un rapport intitulé « Taxer mieux, gagner plus ». Vous êtes par ailleurs membre du cabinet de Valérie Pécresse qui préside la région Île-de-France. Vous venez de coécrire un rapport, enfin vous venez, c'était il y a quelques semaines je crois, pour le think tank Génération Libre, think tank libéral. Rapport intitulé « Libérer l'entreprise de l'assistanat et du fardeau fiscal ». Et puis votre dernier ouvrage publié chez Fayard s'appelle « Aux actes dirigeants ». Vous allez en publier un dans les prochains jours. On le dira peut-être à la fin de l'émission, sinon ça sera trop long. Pour discuter avec vous, Liam Wangnock, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, maître de conférences à l'Université Paris 1, c'est la Sorbonne, membre fondateur de la Nouvelle Gauche Socialiste. Vous l'avez créé après avoir quitté le Parti Socialiste, la Nouvelle Gauche Socialiste qui soutient Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle de 2017. Vous étiez auparavant député européen et parmi les ouvrages que vous avez publiés, il y en a un qui concerne directement notre émission de ce soir. Ça remonte déjà à 2007, c'était aux éditions Grasset. Vive l'impôt. Alors je disais depuis quelques jours, mais finalement c'est quelque chose d'assez classique dès qu'on entre en campagne préélectorale. On voit les différents candidats, et c'est assez légitime finalement, faire des propositions en matière fiscale. Est-ce que les premières annonces que vous avez entendues, l'un et l'autre, vous semblent dénoter une forme de réflexion un petit peu globale sur une refonte du système, ou bien est-ce qu'on est d'abord dans des promesses qui sont essentiellement d'ordre symbolique, Liam Wangnock ?
On ne parle pas beaucoup de fiscalité, on parle beaucoup plus de laïcité et on en parle mal. Quel rapport avec notre sujet ? Le sujet, c'est la République, évidemment. Et au fondement de la République, en 1789, il y avait ce projet, dans l'article 13 de la première déclaration, d'instaurer un impôt qui fasse participer le citoyen à la chose publique, au financement de la chose publique, selon sa faculté contributive. Et ce projet, ce beau projet, est toujours en jachère. Alors, est-ce qu'il faut dépolitiser l'impôt ? Eh bien non, parce que ce projet est plus politique que jamais. N'oublions pas que la Révolution est intervenue notamment parce que le peuple contestait les privilèges fiscaux de l'Ancien Régime, où, rappelons-le, seuls les pauvres payaient, seuls les gueux payaient l'impôt, les gueux et les roturiers, les classes privilégiées en étaient exemptées. Et le débat fiscal depuis la Révolution, c'est celui qui consiste à dire qui doit payer pour le bien public. Et il a fallu attendre 1905 pour que soit créé un impôt sur le revenu moderne. Et cet impôt n'a cessé de faire l'objet de débats éminemment politiques. Alors, est-ce qu'il faut le dépolitiser ? Ma réponse est non. Il appartient à la représentation nationale en République de dire qui doit payer. Et à mon sens, je crois que la gauche a été timide. Elle avait promis le grand soir fiscal. Et nous avions au Parti Socialiste auditionné Thomas Piketty à l'époque. Et beaucoup d'entre nous soutenions son projet de créer un grand impôt universel sur le revenu, assis sur l'assiette la plus large possible.
Voilà, avec une fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG,
voilà,
notamment.
Hein. Voilà,
proposition reprise par le candidat Hollande à l'époque.
Absolument,
en 2012.
Avec un barème progressif et non spoliateur, puisqu'assis sur une assiette large. Et malheureusement, le PS, comme sur plein d'autres sujets, a laissé tomber cette ambition.
Finalement, vous avez une première façon de répondre à la question qu'on pose ce soir. Faut-il dépolitiser la fiscalité? Vous vous dites non, il faudrait plutôt peut-être la repolitiser, en tout cas remettre cette question au cœur du débat politique et au cœur du pacte républicain, peut-être plutôt que d'en faire une question qui serait seulement traitée par les économistes. Est-ce que Robin Rivaton, vous pourriez déjà partager cette première approche?
Ah, moi, je la partage entièrement. Je pense qu'il faut entièrement repolitiser la politique. La repolitiser, la politique, c'est qu'on participe, les citoyens participent à l'exercice de la chose publique. La politiser, c'est la rendre transparent aux citoyens, puisqu'aujourd'hui, elle est complètement incomprise par les
repolitiser
citoyens.
La fiscalité,
repolitiser
pas la politique.
La fiscalité, c'est lui faire quitter le règne de la technique, parce qu'elle est confisquée par des techniciens. Même les politiques n'y comprennent pas. On a vu un président de la commission des finances se faire attraper pour un calcul de l'ISF, parce que le calcul de l'ISF était mauvais, il était mal fait par ce même personne qui est censé être le maître connaisseur de la fiscalité dans notre pays. Donc, on voit bien que cette fiscalité est devenue obscure, elle est devenue incompréhensible par le citoyen, elle est devenue non transparente, elle n'est plus maîtrisée par les élus, elle est maîtrisée par des techniciens qui vivent autour de cette fiscalité, qu'ils soient techniciens publics ou des techniciens privés, avec des mouvements de l'un à l'autre d'ailleurs qui parfois posent question. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut rendre à la fiscalité, faire une grande réforme fiscale, c'est difficile, mais ne plus déjà arrêter avec ces petites réformettes qui sont de bouger des taux, de bouger des barèmes, qui font que complexifier l'ensemble pour des raisons très obscures. On voit bien toute la charge politique qu'il y a derrière. Et reprenons ce qui a animé l'année dernière, cette demi-part des veuves, qui était une mesure logique, qui était une décision prise sous un gouvernement de droite, fait pour, de manière logique, avec du temps, fait préparer autre, qui a provoqué un émoi. Il a fallu faire demi-tour en battant et en se versant des cendres sur la tête pendant des jours pour le gouvernement. Donc on voit bien que la fiscalité est devenue un énorme problème et que plus on attend pour la traiter, plus le politique s'enferme dans la prison qu'il a lui-même créée.
Mais attendez, vous dites les politiques n'y comprennent plus rien, mais ce sont pourtant bien eux qui votent l'impôt. Ça fait d'ailleurs justement partie de leurs compétences les plus importantes politiquement. Ça veut dire que quand il y a des nouveaux impôts qui sont créés, on ne peut pas dire que le Parlement français et le pouvoir politique manquent d'inventivité à la manière. Ce sont des créations qui sont faites sous la pression de certains lobbies, par exemple.
Exactement. On pourrait imaginer qu'avec 80 milliards de dépenses fiscales par an, le politique a un poids énorme, un outil extrêmement puissant. La dépense fiscale sont des niches fiscales. C'est la façon dont on appelle ça dans le langage fleuri de Bercy, on appelle ça une dépense fiscale. On pourrait croire que le politique a un pouvoir énorme, qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Mais en fait, cet argent, c'est la prison qu'il se crée lui-même. C'est-à-dire que toutes ces niches qu'il a créées, elles lui font plaisir à court terme, mais à long terme, elles sont autant d'obstacles, autant de choses qu'il ne peut plus maîtriser, qu'il ne peut jamais fermer. Et donc, on le voit avec, par exemple, la blessure qui, pour moi, est une blessure importante de ce quinquennat, qui est celle de l'écotaxe. Vous avez une majorité de droite, une majorité de gauche qui sont d'accord pour voter un texte en commun sur un impôt qui est un impôt correctif, qui est un impôt juste, qui est un impôt écologique, et qui, au final, face à 15 000 personnes, très remontées certes, mais 15 000 personnes, se retrouvent mises en échec. Donc le politique n'a plus aucun pouvoir, même avec ces petites niches qu'il croit développer.
La complexité du système fiscal diminue le pouvoir du politique sur la fiscalité, Liam Hancock?
Moi, je crois au contraire que les politiques ont très bien compris à quoi on pouvait toucher si on faisait une véritable réforme. Et parce que ça bouleversait les choses, ils ont préféré ne pas se prendre tous les lobbies dans la figure, comme on dit. Par exemple, si on avait fusionné l'impôt sur le revenu et la CSG. Bon, ça a l'air technique comme ça. Mais l'idée était finalement très simple. Ça consistait à dire, on prend l'assiette la plus large possible, qui inclut tous les revenus.
C'est la CSG.
Revenu du capital, revenu du travail, revenu de remplacement. Il y a tous les revenus. Rien n'échappe à l'assiette CSG. Et on greffe dessus un barème progressif. Une dizaine de tranches, plus, éventuellement pour éviter les sauts de tranches trop brutaux. Et puis, c'est des taux qui ne sont pas spoliateurs parce que vous avez une assiette large. Donc, vous pouvez avoir une assiette large avec des bateaux. Et c'est ce que les fiscalistes recommandent pour améliorer le rendement de l'impôt. Au passage, vous poursuiviez en faisant ça deux objectifs. Le premier, c'était d'accroître le rendement de l'impôt pour pouvoir faire de la politique publique et appliquer votre programme. Et le deuxième, c'était de corriger les inégalités dans un contexte où elles se sont considérablement accrues et où elles se sont avérées extrêmement contre-productives au point qu'on parle aujourd'hui du retour des rentiers. Donc, on pouvait faire ça. Pourquoi on l'a pas fait? On l'a pas fait, je ne vais pas entrer dans le détail, mais si vous fusionnez deux assiettes, l'impôt sur le revenu, qui est familialisé, où il y a un quotient familial dessus, et la CSG, qui n'est pas familialisée, et où vous ne prenez pas en compte les charges de famille, il y a un petit problème. Donc, si on avait fait la réforme, il aurait fallu revenir sur le quotient familial. et changer la méthode par laquelle on procédait en faisant la politique familiale et remplacer le quotient familial, par exemple, par un crédit d'impôt forfaitaire par enfant. Par exemple, 2000 euros par enfant et par an. Et là, on aurait poursuivi l'objectif de politique familiale.
Et ça n'a pas été fait pourquoi ? Pour ne pas se mettre à dos une partie de l'électorat ?
Parce que à cette époque, souvenez-vous de l'épisode du mariage pour tous, il y avait tout l'Ouest parisien dans la rue. Et ils se sont dit à Bercy...
Que l'Ouest parisien.
Ils se sont dit... Non, mais je... on sait à quoi on fait allusion ici, près de la maison de la radio. L'Ouest parisien, c'est les beaux quartiers parisiens. Bon. C'est, si vous avez vu La vie est un long fleuve tranquille, le film que tout le monde connaît, c'est les Loquenois, ils habitent dans le Nord, mais bon, c'est un peu bon. Et puis vous avez les Groseilles d'un côté. Alors, le quotient familial, il profite à qui? Il profite aux Loquenois, c'est-à-dire les familles riches nombreuses, et les Groseilles, ils n'en profitent pas, puisqu'ils ne sont pas imposables. Ils sont trop pauvres pour payer des impôts. Donc, voilà. Donc, si on avait fait cette réforme, on aurait eu, d'après les hiérarques du PS, tous les Loquenois dans la rue. Et alors qu'ils étaient déjà dans la rue pour le mariage pour tous. C'est l'une des raisons pour lesquelles on l'a pas fait, parce qu'on a eu peur. Du lobby des classes riches nombreuses.
Mais je pense qu'avant ça, il y a quand même une question à se poser avant celle que vous avancez et de rentrer dans la technique. Qu'est-ce qu'on veut faire à l'impôt? Qu'est-ce qu'on veut lui donner comme mission? La mission première de l'impôt, telle qu'aujourd'hui, personnellement, je la vois, et qui est une vision qui est certainement pas partagée par certains des candidats, c'est de dire quand même que la mission de l'impôt, c'est de maximiser les recettes disponibles pour l'État en minimisant les coûts de collecte, pour qu'il y ait le plus de moyens disponibles pour ensuite mener une politique. Ce n'est pas de faire de la redistribution avant l'impôt, c'est de faire de la redistribution après l'impôt. Si l'impôt devient redistributif en même temps qu'on le collecte, il peut aussi devenir moins efficace économiquement et donc diminuer les ressources que l'État a. Et donc ça, c'est un point très important, c'est de se dire l'impôt a trois missions. La première, c'est de maximiser ses ressources. La deuxième, c'est d'avoir une fiscalité dite comportementale qui modifie les comportements, une fiscalité écologique par exemple, ou une taxe soda, par un autre exemple. Et un troisième point qui peut être un point redistributif. Mais pouvoir être capable de donner un ordre, de prioriser chacune de ces missions, c'est déjà un exercice qui n'est pas si facile que ça. Et je pense qu'on devrait pouvoir se l'imposer à chacun d'entre nous avant même de se prononcer dans des dispositifs très techniques tel que vous l'avez proposé.
Ah, c'est pas technique, c'est complètement politique.
Qu'est-ce que vous pensez, Liam Languedoc? Parce que effectivement, c'est intéressant de se reposer, même si ça peut paraître des questions un petit peu basiques, mais à quoi ça sert l'impôt? Est-ce que vous êtes d'accord avec Robert Rivaton d'abord sur ces trois fonctions de l'impôt et sur cette nécessité peut-être de prioriser certains objectifs par rapport à d'autres? Et est-ce que c'est peut-être ça finalement dans la priorisation, dans le fait de mettre d'abord la question des dépenses publiques devant la réduction des inégalités ou devant l'efficacité économique, disons, c'est peut-être comme ça qu'on arrive à distinguer ce que pourrait être une fiscalité de gauche d'une fiscalité de droite.
Bah écoutez, dans la littérature économique, l'impôt a trois fonctions. La première fonction, c'est de lever des ressources pour financer la dépense publique. Déjà, on a un débat politique, puisque les libéraux pensent qu'il y a trop de dépenses publiques et que donc il faut réduire les dépenses publiques pour baisser les impôts. Nous pensons que la dépense publique, au contraire, a une utilité et que pour la financer, il faut l'impôt le plus juste possible. Donc ça, c'est le premier débat. C'est un débat éminemment politique et pas du tout technique. Et ce que j'ai dit auparavant entre dans ce cadre-là. Ensuite, la deuxième fonction de l'impôt, c'est de modifier les comportements. Bon. Est-ce que, par exemple, le CICE, Crédit d'impôt compétitivité emploi, qui est un cadeau fiscal de 20 milliards aux entreprises 14, sans contrepartie,
14
à partir de 2017, ça va être 20 milliards et 50 milliards avec le pacte de responsabilité.
Mais en tiré en
donc,
réalité,
voilà,
en réel,
donc ça
en
va
réel,
être, c'est l'équivalent d'un allègement considérable de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que ça a modifié les comportements des entreprises en matière d'investissement? La réponse est non. Donc le débat ici est encore éminemment politique. Troisième débat, faut corriger les inégalités. Les libéraux pensent qu'il faut s'orienter vers ce qu'ils appellent une flat tax, c'est-à-dire un taux d'imposition unique, bref, un impôt non progressif.
Peut-être c'est ce que... pas tous les libéraux, en tout cas certains libéraux.
Alors, écoutez, moi j'ai vu des t-shirts dans les meetings de la droite où il y avait écrit Reagan-Bush. Et Reagan, à l'époque, c'était quelqu'un qui avait parmi ses conseillers Arthur Laffaire, économiste de l'offre américain, qui prônait la flat tax, très précisément.
Donc, flat tax, je
connais certains think tanks candidats à la primaire de la droite qui défendent la flat tax. Donc, il y a un débat éminemment politique. Est-ce que l'impôt doit être progressif
progressif et corriger l'inégalité, ou est-ce qu'il ne doit pas être progressif et donc peser essentiellement sur les pauvres? Non, voilà,
oui, vous avez droit de débattre. Les inégalités peuvent être corrigées ensuite, l'État ayant des ressources financières qui lui permettent ensuite de donner des allocations, des subventions et différents moyens de corriger les inégalités en ex post et non pas en ex ante.
Oui, mais ça, c'est la dépense publique.
Juste un amour,
que vous récriminez, vous, les libéraux, non, parce que vous pensez qu'il y a trop de dépenses publiques. Or, dans la dépense publique aujourd'hui, 26% de la dépense publique que vous incriminez, c'est les prestations sociales dont vous parlez et qui sont extrêmement efficaces.
C'est intéressant parce qu'on arrive quand même, on revient au premier point. Le premier point étant de se dire quel est la trajectoire de l'impôt quand on la regarde sur longue période en France. C'est une hausse continue. C'est-à-dire que la première des inflexions, le premier des choix politiques vis-à-vis de l'impôt serait quoi aujourd'hui ? Ce serait déjà de le baisser. Ce serait de baisser le taux d'imposition et de prélèvement obligatoire dans ce pays. Ce serait une révolution. Celui qui fait ça, il va déjà à contre-courant. Il va à contre-courant.
Pour les riches ou pour les pauvres ?
Nation.
C'est qui paye ? L'impôt, c'est qui paye ?
Pour la nation, la société. Moi, je ne suis pas dans une société où il y a des riches et des pauvres, je suis dans une société où il y a des Français. Et les Français, ils payent tous de l'impôt aujourd'hui. Oui. Et donc, quand on est dans cette situation-là où tous les Français payent de l'impôt, la question, c'est de savoir est-ce qu'on veut continuer à monter l'impôt et donc augmenter le taux de prélèvement obligatoire sur la richesse nationale, ou est-ce qu'on se dit, eh ben, on arrive à un moment où il faut se dire stop. Il faut se dire qu'on arrive à un moment où ce n'est plus soutenable pour l'ensemble des Français. Et donc, si on arrive là, déjà, faire ce demi-tour-là, c'est déjà la première des oppositions entre deux visions politiques très différentes.
Mais si la réflexion autour de l'utilité de l'impôt revient à conclure qu'il faut des impôts, qu'il en faut beaucoup parce qu'il y a des besoins qui doivent être couverts par cette source-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait, vous, envisageable, par exemple, Robin Rivaton, de se dire, il faut peut-être augmenter les impôts parce que pour telle ou telle raison, ou bien est-ce que vous faites, pour vous, le postulat de base, c'est de dire d'abord, il faut les diminuer et ensuite on réfléchit à la façon dont on va réformer le système fiscal.
Je pense que la question n'est pas de se dire il faut les diminuer pour les diminuer. La question est de se dire à quel niveau le rendement de cet prélèvement obligatoire supplémentaire devient inefficace et devient nuisible même pour l'ensemble de la société. Je pense qu'il y a un plafond. Alors vous parlez d'Arthur Laffaire, je pense qu'il y a un point dans la courbe effectivement qui montre clairement le rendement supplémentaire de l'euro d'impôt levé n'est plus efficace et ne profite plus à la société. Donc ça, j'en suis absolument convaincu. La question de vraiment les réduire pour les réduire, non, je pense pas que ce soit obligatoire, mais il faut arrêter avec cette facilité qui est de les augmenter. Quand Michel Rocard invente la CSG, la contribution sociale généralisée, une mesure qui était censée être exceptionnelle, qui ne devait pas durer dans le temps, elle sert à financer des besoins sociaux qui explosent à un moment, et c'est normal au milieu des années 90. Et qu'est-ce qui se passe depuis ? On augmente, chaque année on l'augmente, sans une capacité à réfléchir, à se dire à un moment, pourquoi je ne peux plus...
Le taux de CSG n'a pas bougé, vous.
Le taux de CSG n'a pas augmenté. Le taux de CSG a commencé à 1,2 sous Michel Rocard. Il est aujourd'hui à 7,5.
Mais forcément, il n'a pas bougé depuis très longtemps.
D'accord.
Mais Sarkozy n'a pas bougé. Hollande n'a pas bougé.
Il a quand même augmenté.
Mais on l'a mis à 7% parce qu'on a décidé de quasiment supprimer les cotisations salariales et de remplacer la cotisation par l'impôt parce qu'on estimait que l'assiette était plus large et que le taux serait moins important que s'il eût fallu augmenter les cotisations salariales. Donc c'est une assiette qui est une bonne assiette. Le seul problème, c'est que cet impôt n'est pas progressif et que justement le débat qui a agité la majorité, c'était les frondeurs voulaient rendre cet impôt progressif pour préparer la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. C'est ce débat-là que Hollande et Valls aujourd'hui ont refermé et c'est ça qui est un petit peu regrettable. Si vous voulez.
Parce que vous pensez que ça sera pour vous, dans votre point de vue, vous faites passer d'abord la correction des inégalités ex ante avant le rendement de l'impôt. Parce que vous savez bien que si on rend la CSG progressive, on va taxer forcément beaucoup plus les hauts salaires, on va taxer beaucoup plus les forces productives de ce pays qui sont déjà en train de partir. Il faut quand même savoir que le premier bien d'exportation de ce pays, de la France, a été ses millionnaires ces dernières années. On a réussi à faire partir 40 000 millionnaires. Si on veut se continuer là-dessus, vous vous rendez bien compte que vous faites privilégier la correction des inégalités avant le rendement économique.
Alors, est-ce que c'est justement ça votre approche, Yann Wangnock, c'est-à-dire de se dire parmi les trois grands objectifs de l'impôt, est-ce que pour vous, l'objectif prioritaire, c'est justement de réduire les inégalités ?
Moi, je vous dis qu'il y a les trois objectifs.
Mais qui sont à un niveau égal, les trois, pour vous ? C'est-à-dire qu'ils doivent être traités de la même manière ou bien est-ce qu'il y en a qu'il faut privilégier ? Parce que selon qu'on les traite de la même manière ou qu'on en priorise certains, on n'a pas tout à fait la même politique fiscale.
Oui, si on prend les trois objectifs que je vous ai indiqués, je pense que une bonne réforme fiscale aujourd'hui peut améliorer le rendement de l'impôt pour financer la dépense publique universelle. Et là, je voudrais qu'on aille au-delà de la démagogie qui consiste à dire il y a trop de dépenses publiques et les taux de prélèvements obligatoires sont trop élevés. Regardons ce qu'il y a dans les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires vous avez 26% des fameux 57% dont vous parlez de dépenses publiques. La moitié, quasiment, c'est les dépenses sociales. Les dépenses sociales, c'est quoi ? C'est santé, retraite, c'est les prestations sociales.
Mais je ne nie pas.
Famille. Et c'est les prestations sociales. Elles ont un intérêt et vous pouvez pas dire que c'est ça qui aujourd'hui est contre-productif. Et effectivement, elles ont augmenté. Elles sont passées de 18% du PIB en 1980 à 26% aujourd'hui. Et donc, il faut les financer et il faut financer de la façon la plus juste possible. D'où l'idée d'une réforme fiscale qui rende ce financement aussi plus juste. Après, il y a les dépenses de l'État. Vous vous dites, attention, les dépenses de l'État sont trop élevées. Mais vous oubliez de dire que les dépenses de l'État, elles ont baissé. Depuis 30 ans. Elles ont baissé 3 points dans le PIB. C'est énorme, 3 points de PIB.
Bah, si 3 points de PIB,
ça fait 60 milliards.
Si vous voulez transférer aux collectivités territoriales, effectivement.
Oui, sauf que les collectivités territoriales ne sont pas endettées. Elles sont aujourd'hui à l'équilibre parce qu'elles ont l'obligation et les dotations aujourd'hui menacent carrément leur fonctionnement.
Donc elles vous ne pouvez pas endettées. Dire. Vous avez un conseil général qui a fait faillite récemment.
Mais parce qu'on a réduit les dotations, vous réclamez sans arrêt la baisse des dépenses.
Il est endetté s'il a fait faillite.
Donc voilà, si on reconnaît l'utilité de la dépense sociale et de la dépense publique des collectivités territoriales, il faut trouver l'impôt le plus juste possible.
Mais je ne le nie pas. Alors déjà, il y a un premier point. Il faut savoir que la France a quand même quelque chose d'exceptionnel. On a 57% de la dépense, toute la dépense publique sur la richesse nationale, ça fait 57%. Mais dont il y a 5 points là-dessus qui sont des dépenses fiscales. Donc qui sont en fait de l'impôt qu'on prélève et que l'État rend. Il prélève avec la main gauche et il rend avec la main droite.
CICE.
Il n'y a pas que le CICE.
Le CICE, le gros truc, c'est CICE.
Et rien que ce concept-là, qui est un concept purement franco-français, mérite en soi une réflexion. C'est de se dire, l'État prend d'un côté et puis rend avec la main droite. C'est vraiment le choix du roi qui met à genoux et puis qui offre les béquilles derrière.
Et d'ailleurs, dans le rapport que vous avez écrit pour Génération Libre, vous proposez quoi en gros
un effacement parallèle, parce que l'État a son utilité au milieu de rôle d'arbitre, d'arbitre de tennis qui est un peu omniscient et qui voit la balle quand les autres ne la voient pas, n'a aucun sens aujourd'hui dans le monde actuel.
Oui, sauf que ça permet peut-être aussi justement à l'État, au pouvoir politique, au pouvoir exécutif, de faire des ajustements, justement de faire de la politique.
Avec quelle légitimité quand vous ne favorisez pas l'innovation, quand vous soutenez des secteurs qui sont moribonds, qui n'existeraient pas dans une situation économique normale, quand vous bridez l'innovation à cause de ça, quand vous soutenez des entreprises qui, normalement, dans un secteur normal, et c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, mais devrait être laisser de la place à des entreprises nouvelles qui émergent avec de nouveaux produits, de nouveaux projets, de nouveaux modes d'organisation, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites pas de la politique, vous détruisez de la croissance économique pour les citoyens français.
Liamon Gok, tout à l'heure, Robin Rivaton, a utilisé le terme d'efficacité. Est-ce que, alors, ça pourrait être en tout cas une base de réflexion commune pour une grande réforme fiscale, de se dire, l'impôt, avant tout, il doit notamment être efficace. Ou bien est-ce qu'il faut ajouter autre chose que l'efficacité ?
Moi, je suis favorable à un impôt et à une dépense publique efficace.
Alors, ça veut dire quoi, efficace ?
Le débat, c'est pas plus ou moins de dépenses, c'est où va la dépense ? Et qui taxe l'impôt ? La dépense aujourd'hui n'est pas forcément efficace. Quand je parle du CICE, j'estime que c'est une dépense fiscale qui est absolument inefficace.
Je suis d'accord avec vous.
Le rôle par excellence de l'État, c'est de prendre aux uns et distribuer aux autres. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et la fonction de la redistribution, c'est ça. Côté redistribution, par contre, on ne peut pas dire que tout soit inefficace. Quand vous considérez que les inégalités de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, c'est de 1 à 7,
Après redistribution. L'un des taux les plus faibles de l'OCDE.
C'est de 1 à 3.
L'un des plus...
Donc, de ce point de vue-là, la redistribution est parfaitement efficace
en
France.
Elle ne peut pas être inefficace si vous prenez quelqu'un et vous donnez.
Et elle est d'autant plus efficace que ceci joue un rôle d'amortisseur économique et social en période de crise. En 2008, grâce à ces amortisseurs sociaux, nous avons une récession qui a été moins brutale qu'en Allemagne, justement parce que nous avons nos amortisseurs sociaux.
Et depuis 10 ans, la croissance du PIB par tête ne bouge pas. Donc un enfant qui naîtra dans 10 ans a à peu près la même richesse qu'un enfant qui naît à 10 ans. Pour la première fois dans l'histoire de France, on peut se féliciter d'avoir ces amortisseurs sociaux. Quand vous dites que la redistribution est efficace parce qu'elle corrige l'écart de revenus entre avant et après, c'est d'une logique, c'est tautologique. Que je passe de 1 à 7 à 1 à 3 parce qu'au milieu j'ai pris à quelqu'un et j'ai redonné à quelqu'un.
Donc ça marche.
Heureusement que c'est efficace. Ça ne peut pas être inefficace. Sinon, votre raisonnement est tautologique.
En plus, d'un point de vue
macroéconomique,
au bout, d'un point de vue macroéconomique, c'est parfaitement efficace parce que vous redistribuez ensuite aux gens qui ont une propension à consommer la plus forte. Donc, sur la croissance, la mesure qui a l'impact le plus élevé. Par contre, si vous supprimez l'ISF comme vous le préconisez, là vous allez verser de l'eau dans le sable parce que vous allez gonfler la rente qui ensuite va continuer à s'accumuler.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Bien, alors je vous rappelle la question que nous posons ce soir, que nous posions, puisqu'on s'en écarte forcément un petit peu, mais c'est un petit peu le principe de cette émission. Faut-il dépolitiser la fiscalité ? On entend justement dans la discussion qu'il y a entre vous deux que c'est une question éminemment politique, avec des clivages importants. Pour autant, est-ce qu'on pourrait imaginer une forme de réforme consensuelle la fiscalité, d'avoir un véritable impôt universel dont on pourrait ensuite, peut-être, si jamais cette réforme advenait, confier la gestion à une forme d'autorité indépendante, c'est-à-dire sortir la gestion de la fiscalité du pur politique. Est-ce que c'est vers cela qu'il faut imaginer aller, Robin Rivaton ?
Je pense qu'on partage quelque chose au fond et qui est très vrai. Le bon impôt, c'est un impôt avec une assiette large et des taux bas. On est entièrement d'accord là-dessus. La science économique l'a montré maintes fois par le passé. Après, toute la question, effectivement, est sur le gradient des taux. Est-ce que vous allez, le taux bas n'a pas la même bassesse pour tout le monde? Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, aller dans cette idée d'avoir des impôts plus larges, moins nombreux, avec moins de niches, avec moins de mitages qui ont été faits, parce qu'on hérite de toutes ces niches, il n'y en a aucune qui est fermée. Je vais te donner un chiffre, parce que c'est important, sur les 5 dernières années, mais ce qui est valable pour les 5 dernières années vaut pour les 10 dernières années avant. 49 nouvelles taxes créées dans ce pays, 9 supprimées, quand aucun autre État européen n'en a créé plus de 3. Donc nous, on a 40 créations de taxes nettes en 5 ans. Les autres pays européens, en moyenne, sont à 3. Donc on voit bien qu'on arrive dans un système qui est au bout de ses limites. Je pense qu'il faut effectivement être capable de se dire reconstruire comment ça a été fait par le passé. Et quand on a construit la TVA, par exemple, c'est un système qui a été à peu près partagé. Et je pense qu'on peut essayer de reconstruire sur des grands impôts. Après, qu'on soit d'accord ou pas sur les taux, là, c'est une question éminemment politique. Et ça rejoint les questions du rôle qu'on redonne à la redistribution avec Santé ou Ex Post, par exemple. Mais je pense que sur le principe philosophique, le principe de base, bon, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous partagez, mais je pense que cette idée d'avoir des impôts moins mités, moins désagrégés tels qu'ils le sont aujourd'hui, ça peut être une vision qu'on peut partager.
Est-ce que vous êtes d'accord sur ces grands principes?
Sur le principe de l'assiette CSG, qui est une assiette absolument pas mitée, je suis entièrement d'accord si c'est de cette assiette-là dont vous parlez. Moi, je suis entièrement favorable à l'assiette la plus large possible, sur laquelle il n'y ait pas de niche. Et pas de quotient familial, par ailleurs. Et donc, ni conjugal.
Donc, ce qu'on pourrait appeler un impôt véritablement universel.
Un impôt universel. Après, il y a un débat sur le barème, parce que les uns et les autres ne vont pas être d'accord sur le barème. Les uns vont dire qu'il faut une flat tax, les autres vont dire qu'il faut un barème progressif. Mais il ne faut surtout pas confier ça à une autorité indépendante.
Pourquoi ? Parce que ça pourrait restaurer une forme de confiance, c'est-à-dire plutôt que de se dire attention, alors au moindre changement de gouvernement, à la moindre échéance électorale, on va être soumis à de nouvelles créations justement fiscales. Là, ça permettrait peut-être d'avoir une forme de stabilité. Or, la stabilité en matière de fiscalité, c'est quelque chose d'important aussi, non ?
Mon expérience à Bruxelles m'a appris que lorsque vous confiez à des autorités indépendantes des choses et que vous tentez de dépolitiser le débat en inscrivant dans les textes des choses qui sont éminemment politiques, et alors que vous avez essayé de faire croire aux gens qu'elles ne le sont pas, ça finit très mal, quoi. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est pour interdire justement aux États d'utiliser la politique budgétaire en allant au-delà de certains critères. Les 3%, l'équilibre budgétaire, etc. Au nom du fait que ça serait bon et que ça serait neutre. En réalité, on se rend compte aujourd'hui que derrière ça, il y a un projet de société qui est le projet ordo-libéral à l'allemande. Donc si le but dans la dépolitisation de l'impôt, c'est de naturaliser ce que les libéraux sont en train d'essayer de nous vendre, la réponse est halte-là et je crie au gars.
Je suis d'accord, je ne partage pas l'idée d'une autorité indépendante, ce n'est pas possible. Mais sur la réflexion...
C'est d'ailleurs que j'ai vu nulle part cette idée évoquée.
Il existe un Haut Conseil des prélèvements obligatoires est là pour conseiller le législateur dans la façon de penser le système d'impôts et de prélèvements obligatoires en général, un pacte d'impôts. Et je pense que c'est la mission qu'on pourrait espérer aujourd'hui, c'est d'être capable de dessiner un peu les grands axes que pourrait être une convergence ou une modernisation de ce système d'impôts qui est vraiment aujourd'hui obsolète, et je pense qu'on peut le dire, qui conduit à des problèmes sérieux. Vraiment, quand un pays est incapable de mettre en place une fiscalité écologique au bénéfice de ses camionneurs nationaux, de ses convoyeurs nationaux, parce qu'il ferait enfin payer les convoyeurs étrangers qui utilisent ces routes, on marche sur la tête quelque part, on roule sur la tête au choix, mais on est vraiment on atteint les limites de l'exercice politique, et on voit bien que le politique n'est même plus capable d'imposer de bonnes mesures, c'est-à-dire des choses qui vont dans le sens de l'intérêt général, il est incapable de les mener. Donc je pense qu'il faut absolument être capable de mener cette grande réforme, au moins d'en tracer des principes directeurs, et de se dire on arrête de créer des niches, ce qui paraît aujourd'hui absolument impensable, vous l'avez dit, c'est un des outils naturels du politique qui y va, qui y revient, qui a envie de créer sa niche, sa taxe, d'ailleurs elle porte le nom souvent de leur créateur, donc c'est des choses qui restent dans l'histoire, mais c'est un mauvais système et qui en dit conduit à sa perte.
Et imaginons, dans les derniers mois du quinquennat de François Hollande, du premier, on verra bien s'il y en a un deuxième ou pas, décision est prise de se dire, bah voilà, allez, ça y est, on va vraiment lancer le chantier d'une grande réforme fiscale. On se souvient que ça avait été un des objectifs évoqués pendant le quinquennat par Jean-Marc Ayrault quand il était encore Premier ministre, et puis ça n'a pas vu le jour. Mais bon, allez, il prend cette décision et il se dit, bah voilà, on va réunir un collège d'experts pour essayer justement d'aboutir à une réforme qui soit la plus consensuelle possible. Est-ce que l'un et l'autre diriez, bah oui, chiche, si on vous le proposait, je vais y aller, on va essayer justement de régler cette question, non pas une fois pour toutes, parce qu'évidemment, comme vous le dites, Liemannock, c'est quelque chose de politique, donc ça peut évoluer, mais en tout cas, de définir les grands principes de la manière la plus large possible et donc la plus acceptable possible pour tous les contribuables, quel que soit leur niveau finalement de richesse.
Écoutez, moi j'étais là pour ça, quand j'étais secrétaire national adjoint à l'économie de Michel Sapin, avant la campagne de Hollande, nous avions un projet clé en main d'une CSG fusionnée avec l'impôt sur le revenu et on ne l'a pas mis en place. Vous parliez de Jean-Marc Ayrault, il y a eu l'épisode de l'amendement Ayrault lors de l'hiver dernier.
Alors, il faut rappeler ce que c'était cet amendement qui finalement a
Jean-Marc
été
Ayrault a fini par se rallier à l'idée des frondeurs selon laquelle il fallait rendre la CSG progressive pour préparer la fusion de l'impôt sur le revenu avec la CSG, notamment à l'occasion de la mise en place de la retenue à la source.
Bon, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel.
Oui, mais alors sur un argument absolument discutable, parce que la CSG en tant que telle, lorsqu'elle a été créée, aurait dû être retoquée. Elle aurait dû être retoquée puisque c'est un prélèvement, comme je l'ai dit, qui n'est pas familialisé, qui est un impôt non familialisé alors que l'impôt sur le revenu est familialisé. Ils ont autorisé la CSG, donc ils auraient dû autoriser une première fois la CSG progressive en 99 lorsque Jospin l'a proposé. Le Conseil constitutionnel, il y avait Jox à l'époque dedans, avait dit non. Et là, dans le nouvel épisode, l'amendement Ayrault reprenait en compte très précisément les objections du Conseil constitutionnel de 99 en disant on va prendre en compte les charges de famille en redistribuant par un crédit d'impôt aux familles concernées sur la base des déclarations d'impôt en N plus 1. Donc tout ça était parfaitement recevable et le Conseil constitutionnel, sous le lobbying de certains, et moi je suis de ceux qui pensent que ce Conseil constitutionnel doit être supprimé parce qu'il n'est pas neutre, hein, dans une 6e République, il faudra supprimer le Conseil constitutionnel, il y a eu une connivence. À l'époque, Jean-Louis Debré présidait le Conseil constitutionnel et beaucoup de gens au gouvernement étaient très contents que cet amendement ne passe pas. Donc moi, je ne crois pas qu'il y aura de changement fiscal d'ici un an.
Et voilà, au passage, un excellent sujet pour un prochain débat.
Autant je ne crois pas à une autorité indépendante de la fiscalité, autant je crois au Conseil constitutionnel. Et je pense qu'il ne faut pas attaquer toutes les institutions dans une démocratie parce que sinon, on risque on a suffisamment de problèmes aujourd'hui de perte de confiance dans les institutions pour éviter de s'attaquer gratuitement à tous nos juges, y compris nos juges suprêmes. En tout cas, il y a quand même des lignes rouges. Sur la question de cette grande réforme fiscale aujourd'hui, oui, il faudrait y aller. C'est quelque chose auquel je pense qu'il faudrait que ce soit transpartisan. Il y a une dimension transpartisane sur le fond. Il y a une dimension aussi, au-delà de la fiscalité telle qu'elle est actuellement, de la penser pour demain. On est dans un monde où les flux sont dématérialisés de plus en plus. On se pose beaucoup de questions sur l'évasion fiscale. On se pose beaucoup de questions sur comment demain on taxe ces géants de l'Internet qui parfois ont des services qui sont basés à l'étranger ou autre. On parle de taxes pollen, on parle de taxation à la source, directement sur chaque micro-prélèvement. On prendrait une sorte de TVA, mais plus rapide et directement liée à la dépense de consommation. C'est aussi à des choses comme ça qu'il faut réfléchir. Je ne dis pas que c'est la solution.
Vous voulez augmenter la TVA ?
Je ne dis pas que c'est la solution. Je dis juste que ces mesures...
C'est l'impôt le plus injuste.
Pardon ?
C'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt carrément dégressif. Plus on est riche, moins on le paye.
Il a déjà 11 milliards de dégrèvements sur la TVA avec des produits divers et variés qui sont dégrévés de TVA et qui sont de dépenses fiscales.
C'est pour les produits de première nécessité.
En revenant sur la question, c'est comment demain on répond à cet enjeu de dématérialisation des activités économiques qui fait qu'il n'y a plus une usine aujourd'hui où la facilité de la taxer, que ce soit le capital ou le travail sur cette usine, avec des gens qui sont à l'extérieur. Donc il y a des réflexions très, très, très poussées qui ont lieu un peu partout dans le monde, notamment sous la férule de l'OCDE. Mais je pense que que pour un pays comme la France qui a inventé la TVA, on doit aussi être capable de se dire, mais demain, dans une fiscalité moderne, comment on y pense? Donc c'est pas seulement la fiscalité aujourd'hui, c'est la fiscalité de demain aussi à imaginer.
Est-ce que une fiscalité moderne, c'est une fiscalité qui est avant tout nationale ou qui est un peu plus transnationale? Tiens, écoutez, c'était pas si vieux que ça, une certaine affaire qui nous envoie du côté du Luxembourg.
LuxLeaks n'est pas une marque de couche haut de gamme. Pourtant, il s'agit bien de fuites, de grosses fuites d'argent. Imaginons une multinationale qui voudrait payer moins d'impôts. Je sais, ce n'est pas facile, mais faites un effort. Cette multinationale, par l'intermédiaire d'un cabinet d'audit, demande au fisc luxembourgeois à quelle hauteur elle serait taxée si elle ouvrait une filiale dans le Grand-Duché. Le cabinet d'audit propose un taux d'imposition le plus faible possible pour son client et négocie avec le gouvernement luxembourgeois. Une fois la proposition acceptée, elle devient un tax ruling, validé par le fisc. Et voilà, le tour est joué et tout le monde est content. La multinationale, qui via sa filiale, centralise ses bénéfices réalisés dans d'autres pays et peut donc économiser des centaines de millions d'euros, parfois des milliards, en échappant à l'impôt dont elle aurait dû s'acquitter ailleurs.
Voilà, petite explication sur le système LuxLeaks que nous avons trouvé sur le site d'Arte, c'était Arte Journal, ça a été mis en ligne en avril dernier. On va mettre le lien pour que vous puissiez voir cette petite animation qui est assez intéressante, en tout cas très très pédagogique. Je voulais quand même pas qu'on termine, parce que vous avez rappelé justement dans votre pedigree, Liam Wangdock, le fait que vous avez été eurodéputé, la question de la fiscalité à l'échelle européenne. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui en Europe? Est-ce que la réforme fiscale, il faudrait pas d'abord et avant tout la penser à cette échelle-là, en commençant peut-être par exemple par interdire la concurrence fiscale?
Au sujet de la fiscalité sur les sociétés, absolument. Moi, j'ai été rapporteur pour le groupe socialiste d'un rapport sur l'assiette commune et consolidée de l'impôt sur les sociétés, et le Parlement européen, à une large majorité, a proposé la mise en place d'une assiette consolidée et commune de l'impôt sur les sociétés, avec ouverture du débat sur l'harmonisation des taux au bout de 5 ans.
Pour éviter justement ce système de concurrence.
Absolument. Donc la balle est dans le camp du Conseil, qui ne l'a jamais exploité parce que les Britanniques ne veulent pas d'harmonisation fiscale. Maintenant que les Britanniques sont plus là, faut espérer que ceux qui vont rester, mais là on verra après la prochaine élection présidentielle, parce qu'il faudra du volontarisme politique pour convaincre les Allemands. Donc j'espère que ceux qui seront là se saisiront à bras-le-corps de ce dossier.
Quand on est libéral, Robin Rivaton, on est plutôt favorable à la concurrence. Est-ce que en matière de fiscalité, la concurrence, c'est quelque chose qui vous semble malgré tout nécessaire, ou bien il faut la combattre, en tout cas à l'échelle de l'Union européenne?
Je pense qu'il faut entièrement la combattre à l'échelle de l'Union européenne, et il est absolument impensable aujourd'hui que des pays, de petits pays en plus, il n'y a pas de petits ou de grands pays, mais des petits pays qui n'ont pas d'influence par rapport à d'autres grands pays, soient capables d'avoir des taux qui sont des taux de prédation, des taux de prédation. Et quand ces pays en plus ont été aidés par la Commission européenne, comme ça a été le cas de l'Irlande, il est absolument insupportable de voir ces pays continuer à avoir des taux de prédation qui font qu'elles attirent les multinationales et des flux financiers au détriment de pays dans lesquels ces flux sont générés, sont créés, et desquels ils sont issus de la consommation des citoyens français ou allemands.
Il y a un autre sujet à l'échelle européenne qui fait là aussi un petit peu figure d'Arlésienne depuis le temps qu'on en parle, c'est la taxe sur les transactions financières, qui serait là aussi une forme d'harmonisation fiscale, Robin Rivaton.
Mais pourquoi pas, encore une fois, mais là aussi il faut être capable de penser un impôt au niveau européen et penser cette taxe sur les transactions financières seulement au niveau français. On voit bien qu'elle fait dans ce cas-là primer non pas dans les trois fonctions, non pas l'égalité, non pas le comportemental, non pas l'efficacité, mais la communication et l'électoralisme, et ça ne sert à rien. Et donc autant, si on veut la penser avec un tout petit peu d'intelligence pour qu'elle modifie les comportements, on la fait à un niveau européen, et pour qu'elle évite les effets d'éviction d'un pays à l'autre.
La taxe sur les transactions financières à l'échelle européenne pour une véritable efficacité, Liam Wangdock?
Elle a été soutenue par le Parlement européen et la Commission, qui voyaient un moyen de lever des ressources supplémentaires pour le budget communautaire.
En général, tout le monde est pour.
Et aller progressivement vers une fiscalité européenne pour financer justement le budget. Malheureusement, contrairement à ce qu'on croit, ceux qui tirent en arrière le projet, c'est les Français. Et c'est notamment le commissaire chargé de l'économie, Pierre Moscovici. Je le regrette.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission et à ce premier débat de la nouvelle saison du Grain à Moudre. J'y premier débat, mais le grain ne s'arrête jamais. Je tiens à profiter pour remercier et Émilie Chaudet et Raphaël Bourgois qui ont fait plus qu'assurer pendant cet été aux commandes du Grain à Moudre d'été. Merci donc à tous les deux. Robin Rivaton, tiens, je disais en ouverture de cette émission que vous allez bientôt publier un nouvel ouvrage, Quand l'État tue la nation, c'est chez Plon et ça sort le 15 septembre.
Tout à fait.
Et quant à vous, Liam Wagnock, je rappelle peut-être pas votre dernier ouvrage, enfin pas l'ouvrage Vive l'impôt, mais il y a notamment les théories économiques aux éditions La Dispute ou encore les mystères de la Troïka aux éditions du Croquant. Vous avez eu la gentillesse de me les apporter ce soir. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Mathilde Barbier, Cyril Baer. Bienvenue à notre nouvelle stagiaire Isolte Sicard, émission réalisée par Jean-Christophe Vaillant avec à la prise de son. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis, on ne les a pas encore mariés, avec à la prise de son, Lucas Vaillant.